Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Okapi Service. Quand vous achetez un litre de carburant, un kilo de farine ou vous payez votre facture d'électricité, êtes-vous sûr que les mesures sont justes? Ce 20 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la métrologie. Nous en parlons dans Okapi Service, c'est la science des mesures et son importance dans notre vie quotidienne. Avec Monsieur Bertin Toumba Bouloulou, président de l'association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC à Promène. Monsieur Bertin Toumba, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour Madame la journaliste et merci infiniment pour l'intérêt que vous portez à notre organisation, à nos activités.
Merci. Vous voulez participer à cette émission, chers auditeurs? Vous voulez partager vos témoignages ou poser vos questions? Enregistrez-vous au 085 42 11 547. 085 42 11 547 ou laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Sylvain Bauguéré est à la mise en onde de cette émission. Esther Mamboté assure le live sur nos réseaux sociaux. Benjamin Moudoumbi réalise l'émission sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Jocelyne Moussa Opondé.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service.
Ce 20 mai, le monde célèbre la journée mondiale de la métrologie, un mot qui peut sembler technique, mais qui touche pourtant notre vie quotidienne, au marché, à la station-service, dans les factures d'eau et d'électricité, dans les médicaments, les balances, les dosages ou encore la qualité des produits. La métrologie, c'est la science de la mesure et derrière chaque mesure fiable, il y a une question de confiance, d'équité et de protection du consommateur. En République démocratique du Congo, plusieurs défis subsistent encore dans ce domaine. Instruments de mesure inadaptés, techniques, textes anciens, pratiques commerciales parfois approximatives. Alors pourquoi la métrologie est-elle importante? Comment protège-t-elle les consommateurs et pourquoi est-elle essentielle au développement économique? Pour en parler, je l'ai dit, nous recevons M. Bertin Toumba Bouloulou, président de la Promène. M. Bertin Toumba, d'abord, qu'est-ce que c'est la métrologie?
Madame, je salue la manière dont vous avez introduit la chose.
Oui, merci. Après, rapprochez-vous de votre micro. Okay.
La métrologie, c'est l'activité qui nous permet d'effectuer des mesurages dans tous les domaines et d'avoir confiance aux résultats de ces mesurages. Mmh. Quand vous allez acheter le carburant à la station, vous devez être sûr que les 5 litres qui sont indiqués là, c'est réellement ce sont les 5 litres qu'on vous a servi. Mmh. Vous achetez la viande au marché, 5 kilos, vous devez vous assurer que 5 kilos, c'est réellement ce qu'on vous a donné. Ce n'est pas moins, ce n'est pas plus. Mmh. Donc, c'est l'activité qui vous permet d'avoir confiance au résultat de la mesure. Mmh. Bon, la mesure, les mesures, on les effectue tous les jours et dans tous les domaines.
Et pourquoi dit-on que la métrologie concerne tout le monde et pas seulement les scientifiques?
Vous savez, madame, que nos ancêtres n'avaient pas de système de mesure. Ils pratiquaient le troc. Mmh. Et avec le temps, on a trouvé que le troc avait beaucoup de limites et était la base de beaucoup de conflits.
Alors, les échanges n'étaient pas équilibrés.
Équilibrés, n'étaient pas équitables.
Un diamant pour une chèvre.
Voilà. Ou le pied du roi, oui, comme référence pour la longueur. Vous voyez ce que ça peut faire. Mmh. Si le pied du roi avait la taille du pied du Mutombudi Kembe, de l'heureuse mémoire, et votre pied, vous voyez que c'est déjà ça pose problème. Mmh. Donc, les gens ont réfléchi. Il y a eu beaucoup de tentatives et tout ça, jusqu'à ce qu'en 1875, 16 pays se retrouvent pour déterminer d'avoir un système unique qui mettrait tout le monde d'accord. Mmh. Et moi, je dis que c'était justement le début de la mondialisation. Mmh. En 1875, les gens ont dit, ayons le même langage, ayons les mêmes repères pour mieux fluidifier et rendre les échanges plus équitables.
Mmh. Et dans notre quotidien, où est-ce qu'on trouve concrètement la métrologie?
Une bonne question. Une entreprise, je vais citer comme CEP Congo, qui entrepose les produits pétroliers, qui distribue, ne peut pas fonctionner sans métrologie. C'est pas possible. Mm. Et c'est parmi les entreprises qui ont une bonne organisation de la métrologie. Mm. Une entreprise qui fait le contrôle, qui dit contrôle, dit mesure. Mm-hmm. On peut mesurer de manière visuelle ou bien utiliser les instruments de mesure. Mm. L'OCC pratique la métrologie. Mais il y a un problème, le problème qui subsiste, c'est au niveau des textes qui régissent la normation de la maison de notre pays.
On y reviendra. Voilà. Mais en parlant de métrologie, ça nous renvoie au système métrique qu'on a appris à l'école. Finalement, ça nous sert. Hein.
Tout à fait, tout à fait. À l'époque, on a utilisé.
Parce que ça paraissait un peu abstrait à l'école. Les élèves se demandent, mais pourquoi ça ne nous sert pas dans la vie au quotidien Alors que, bon, si on veut avoir un litre doit être pareil partout.
Tout à fait.
Ça nous sert finalement.
Tout à fait. Mais avec le temps, la métrologie a évolué. Je crois, à notre époque, nous parlions plus du système MKSA. Donc avec 4 unités fondamentales, maintenant on est à 7.
Vous pouvez les citer, hein, les 4 et les 7.
Les 4 M, c'était mètre pour la longueur, K, le kilo pour la masse, S pour, le temps et A pour le... l'électricité. Aujourd'hui, on a ajouté la mole pour la quantité de la matière, le Kelvin pour la température, la candela pour l'intensité lumineuse. Ouais, ça fait 7. Donc, au jour d'aujourd'hui, les textes qui régissent la métrologie dans notre pays parlent encore de 4.
Ok.
Oui.
Et pourquoi ce retard?
Donc, c'est ça. Ça fait partie de la lutte que nous menons pour dire qu'on doit se mettre à la page. Vous savez, madame, au niveau international, il y a une instance qu'on appelle BIPM, Bureau International des Poids et Mesures, qui s'occupe des aspects scientifiques, des recherches, pour avoir les bons matériaux. En fait, le travail du Bureau International des Poids et Mesures, c'est pour réduire au maximum l'incertitude qu'il y a dans les mesures, le doute qu'on peut avoir. Alors, il y a des travaux qui se font. Alors, le BIPM a 64 membres, et l'Afrique est représenté, en tout cas jusqu'en 2024, par l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Maroc et la Tunisie. Donc, ça, c'est vraiment la cour des grands. Le Congo n'est pas encore dans cette cour des grands. Alors, quand on parle des membres associés au bilan de transport de mesure, il y a encore quelques pays africains sont là. Le Congo n'est pas encore là. Ça, c'est la cour des grands. Les gens ont réfléchi des grands enjeux pour mesurer. Et dans des domaines comme l'environnement, le crédit carbone, tout ça, c'est là où il y a mesure, c'est la métrologie. Et on ne va pas seulement mesurer, mais on doit avoir confiance au résultat de la mesure, des mesurages. Donc c'est ça l'enjeu majeur. Et nous sommes un peu en déphasage par rapport à ce qui se passe au niveau international.
Donc vous estimez qu'un pays ne peut pas fonctionner correctement sans système fiable des mesures?
Le pays ne peut pas se développer de manière durable sans système national de mesure. Et nous insistons en disant que la métrologie fait partie des éléments qui affirment la souveraineté économique d'un État.
Mais comment on explique ces retards de la RDC par rapport aux autres?
Je suis désolé de vous dire que bon, moi, je ne comprends pas. Nous, en tant que société civile, nous continuons à faire le plaidoyer.
Est-ce qu'on en parle assez? Oui, est-ce qu'on fait assez de plaidoyer?
Oui, nous continuons à faire le plaidoyer. Nous avons même été au Parlement en 2011. Nous avons eu, grâce au président du Sénat de l'époque, je vais citer l'honorable président Kengo Wadondo, qui nous avait permis de passer au Sénat et échanger avec les parlementaires. Et lui-même a porté ce problème et l'a amené même à la rencontre interinstitutionnelle. Et le 1er juillet 2011, déjà, parmi les résolutions prises à cette époque-là, il fallait réserver à la loi sur la métropolisation un caractère urgent. Madame, 1er juillet 2011. Ça fait 15 ans qu'aujourd'hui, nous nous posons la question aussi sur ce qu'on appelle continuité de l'État. Vous voyez. Donc, le cadre institutionnel, c'est le niveau le plus élevé des responsabilités dans ce pays. Si à ce niveau-là, une option a été prise et que jusqu'à aujourd'hui on attend, moi aussi je ne sais pas répondre à votre question.
Alors, revenons sur le thème de la journée d'aujourd'hui. Oui. Le thème mondial parle de la confiance dans l'élaboration des politiques. Comment on peut comprendre concrètement ce thème et surtout dans le contexte congolais?
Ce thème veut montrer qu'il n'y a pas de politique sans mesure. Toute politique est bien réfléchie, bien planifiée, exécutée et suivie. Et à toutes les étapes-là, on a besoin de mesures. Aujourd'hui, nous sommes une association qui travaille sur la métrologie et la normalisation. Quand on doit établir des normes des produits, la métrologie intervient en amont et en aval. En amont pour établir les caractéristiques de produits ou des matériaux, et en aval pour faire l'évaluation de la conformité ou le contrôle, l'inspection, la certification, comme l'OCC le fait. Donc, la métrologie, elle est incontournable aujourd'hui pour tout pays moderne.
Alors, dans une note que APROMEN, votre association, a rédigée à l'occasion de cette journée mondiale, vous évoquez encore l'usage d'outils comme les Sarkombi ou les Mipiku, l'État, dans le commerce en tout cas. Et pourquoi cela pose-t-il problème? Parce que c'est aussi des instruments de mesure, hein, en quelque sorte.
Merci beaucoup, madame, pour cette question qui est très, très pertinente, qui a même fait l'objet d'une réflexion profonde en interne. Parce que nous avons des membres qui ont estimé que le Sarkombi et c'était des initiatives locales qu'il fallait encadrer et promouvoir. Nous avons dit, mais la solution a été trouvée pour le monde entier.
Oui.
Depuis 1975, pour les échanges. Il faut aller avoir des repères communs qui ne peuvent être affectés ni par le temps ni par l'espace. C'est ce qu'on a parlé du kilo qui est utilisé dans le monde entier. Ailleurs où ce n'est pas le kilo qui est utilisé, on utilise une mesure qui a un lien avec les kilos. En Chine, on utilise le tin, mais on sait que le tin, c'est 0,5 kilo. Vous comprenez? Aujourd'hui, je pose la question. Un kilo, un Sarkombi de riz pèse combien? Est-ce que c'est le même poids qu'un Sarkombi de piment? C'est le même poids qu'un Sarkombi de chenille. C'est le même poids qu'un Sarkombi de pop-corn. Vous vous rendez compte? Donc là, on a un problème sérieux de repères. Il faut absolument que nous revenions à la normale. Aujourd'hui, la normale, c'est le système international de mesure.
Parce que ça pose problème aussi avec dans les échanges avec l'extérieur. Si vous exportez, par exemple, le café congolais et que vous vous référez au Sarkombi, ça pose problème.
Ça pose problème, madame. Vous savez, tous les débats qu'on a aujourd'hui sur les investissements étrangers. Je salue les efforts qui sont fournis au niveau des autorités pour attirer les investisseurs, pour améliorer le climat des affaires. Mais quand on parle d'intégration, ce n'est pas intégration des hommes politiques, c'est des populations qui sont intégrées. Ça veut dire que quand vous êtes intégré dans la communauté économique des États d'Afrique de l'Est ou du Sud, vous devez parler le même langage. Alors, déjà dans notre pays, quand vous quittez Kinshasa, est-ce que le Sarkombi est utilisé à l'Équateur? Est-ce qu'il est utilisé au Katanga?
Au Kasaï, on parle de Meka, de maïs.
Meka, oui. Dans le Bas-Congo, on parle de gigos et tout ça. C'est pas possible. Moi, je pense qu'il est temps, surtout avec tous les efforts qui sont fournis pour attirer les investisseurs, nous devons être en mesure de parler le même langage. Je l'ai dit sur une autre chaîne que les grandes puissances conditionnent leurs investissements à la paix dans la région, pas au pays, dans la région. Et quand ils vont venir dans la région, avec qui vont travailler? Avec les gens qui parlent le même langage de la mesure et de la norme. C'est très important et même urgent pour notre pays de régler ce problème.
Vous avez parlé des instruments de mesure au Katanga, au Kasaï, qui existent d'ailleurs, mais ailleurs, à l'Équateur par exemple, nous savons que pour acheter un poisson frais, il n'y a aucune référence. Ça dépend peut-être de l'humeur du pêcheur, du revendeur, de la météo ces jours-là.
Tout ça.
On ne sait pas c'est quelle quantité ou c'est quel poids, quelle mesure de poisson est vendu à combien. Ça pose un sérieux problème.
Tout à fait. Tout à fait. Notre association vient de totaliser 20 ans. Nous avons un programme, notamment pour aider les maraîchères, les femmes commerçantes à comprendre ce que c'est que la métrologie, à savoir utiliser les instruments de mesure j'allais dire normaux, qui doivent être légaux, parce que la loi là, qu'on le veuille ou pas, elle doit être adoptée.
Mmh. Et donc cela lèse, hein, comme j'ai dit, les consommateurs. Un autre exemple, ici même à Kinshasa, c'est une expérience vécue. Vous allez acheter un sac de d'haricots au marché Zigida. Oui. Vous savez que c'est un sac de 100 kilos, mais revenez peser ce sac et changer de commerçant au marché Zigida. Vous verrez qu'ils ont tous la même mesure, mais rentrer à la maison pour peser le haricot, c'est pas la même chose. Au lieu de 100 kilos, on se retrouve avec 70 kilos carrément.
Alors, vous prenez le cas de sac, la différence est de, comme vous dites, 70 à 100 kilos, ça fait
30 kilos.
Prenez-la pour sur un contexte plus large. 100 sacs, 1000 sacs.
Dans l'exercice du commerce, ça pose vraiment problème pour les commerçants.
C'est très important. Aujourd'hui, pour revenir au thème de l'année, les politiques, ce sont les autorités qui font ces politiques. Ça doit être basé sur des statistiques fiables. Alors, est-ce qu'on va faire des statistiques fiables? On est dans la mondialisation. Vous dites, au Congo, on vend autant de sakombi, des couleurs. Est-ce qu'on va vous comprendre?
Mais on utilise quand même des balances au marché Zigida, dont je parle. Oui. Mais est-ce qu'il existe de contrôle des balances? Parce que, bon, on nous dit à certaines agences de fret, par exemple, les balances sont truquées, on sait pas, voilà, c'est trafiqué, on n'est pas sûr. Et même les sakombi et les colos dont on parle, il y en a un qui passe à l'eau chaude pour un peu, bon, rétrécir, voilà, pour tricher un peu. Voilà. Est-ce qu'il y a de contrôle, même si ces mesures existent, même si c'est pas dans la convention universelle, même au niveau local, est-ce qu'on fait de contrôle pour protéger les consommateurs?
Cette question est très pertinente. Au niveau des instances importantes, comme vous dites, au niveau des dépôts et tout ça, l'OCC fait le travail. L'OCC a tout un département métrologie qui fait ce contrôle des balances et tout ça. Et s'il y a un secteur où l'OCC agit avec compétence, c'est justement le secteur de mesure, parce que le laboratoire de l'OCC est accrédité. Accrédité, ça veut dire que j'ai une reconnaissance internationale en la matière. Mais sur d'autres domaines, l'OCC même est bloqué, parce qu'il n'y a pas de loi. La métrologie légale fonctionne avec des lois et des règlements techniques. Et de ce côté-là, même l'OCC en souffre. Même tout opérateur de domaine de mesure souffre de l'absence d'une loi en matière de métrologie.
Voilà. Ok. Est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter par rapport à cette question?
Vous avez bien dit. J'ai dit, même au niveau de notre association, nous avons eu un débat par rapport à l'utilisation de sakombi des écolos. Mais ça pose problème. Nous avons dénoncé, on a même mené des enquêtes. Il y a beaucoup de tricherie avec ça. Il y en a qui mettent la bougie pour créer un faux fond. Et puis, madame, je vous fais rire. Alors, lorsque nous avons fait le débat là au niveau de notre organisation, nous avions oublié d'acheter des sakombi. Nous avons envoyé un de nos membres acheter deux. Et quand il est arrivé avec, il y a un qui est entré dans l'autre. Donc ça veut dire que ça n'avait pas la même chose.
Même au niveau de l'usine de fabrication.
On a acheté dans un même magasin deux sakombi, l'un était plus grand que l'autre. J'ai dit, si on achetait peut-être cinq, qui sait s'il y avait, on devait avoir cinq mesures différentes. Ça, c'est un problème sérieux.
Alors, on va continuer avant ce coup de fil de Jonathan Bantou, scolastique, qui nous appelle de Lubumbashi. Bonjour, Jonathan. Après Jonathan, il y a Baudouin Fataki qui attend, il est dans le Haut-Katanga. Bonjour, Jonathan Bantou.
Oui, bonjour, madame Jocelyne Moussaou. Oui, merci beaucoup de la parole. C'est bien sûr un sujet d'une pertinence remarquable. Madame, vous me captez 5 sur 5?
On vous écoute, allez-y, monsieur Jonathan. Veuillez plutôt vous éloigner un peu de cet endroit qui est un peu bouillant pour que nous puissions communiquer dans la sérénité.
Ok, d'accord. La métrologie est essentielle pour protéger la population contre les fraudes commerciales et les abus dans le marché. Les factures d'eau et d'électricité suscitent souvent de contestations et il est important d'expliquer comment les mesures sont effectuées et contrôlées. Madame Jocelyne, je ferais que je décloisonne ce sujet en visitant ces versets bibliques de Lévitique, chapitre 19, versets 35-36. Je lis. Vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures des dimensions, ni dans les poids ni dans les mesures des capacités. Verset 36, je lis. Vous aurez des balances justes, des poids justes, des effets justes, et j'en passe. Quant à ceux, les responsables de cette malhonnêteté doivent savoir que tout se paye ici-bas. Et la pauvre population qui en est victime ne sait peut-être pas détecter cette malhonnêteté. Et ainsi, Madame Jocelyne, mes trois questions à poser à l'invité sont les suivantes.
Allez-y.
Que voulez-vous, ça c'est la première question, que voulez-vous que la population fasse pour se rassurer de la métrologie? Ça c'est un. Deux, comment détecter cette malhonnêteté qui fait rage à nos jours? Troisième et dernière question, quelles sont les sanctions réservées aux responsables de cette malhonnêteté? Merci beaucoup, madame. Je remets le micro.
Merci beaucoup, Jonathan Bantou, pour votre intervention depuis Lubumbashi. On va rester dans la même province pour prendre l'appel de Baudouin Fataki. Bonjour, Baudouin.
Bonjour, madame Jocelyne. Bonjour, l'invité. Bonjour à tous les auditeurs. En tout cas, merci beaucoup pour la thématique du jour, qui est beaucoup plus importante d'ailleurs.
Merci.
La métrologie, vraiment, madame, je veux dire, depuis ma bord, pose problème, surtout ici chez nous, sur tous les domaines, qu'ils soient dans le système, comme vous venez de le dire ici, MKSA, toujours des problèmes. Je donne l'exemple, par exemple, dans le domaine de mesurage pour le parcelles, par exemple. Ici, nous en souffrons pas mal. Vous allez voir, par exemple, un lotissement qui a été fait il y a, par exemple, 10 ans ou 15 ans. Et si on revenait dans ce même lotissement pour retrouver les mêmes mesures qui avaient été faites, c'est vraiment un grand problème. On ne sait pas c'est dû à quoi. Et c'est là ça pose toujours des problèmes d'entre des conflits parcellaires. Oh, les avenues sont empiétées, les routes sont empiétées. Vraiment, c'est très, très, très compliqué. Alors, j'en profite pour cette thématique ici pour poser un peu la question à notre invité, s'il peut nous aider quant à ça. Aujourd'hui, si nous vivons ce genre de problème, comme venait de le dire mon prédécesseur, c'est suite à la malhonnêteté. Donc, chacun cherche à tirer profit au détriment du consommateur ou du client. Alors, comment on peut faire pour mettre fin à ces histoires là-bas? Je ne voudrais pas évoquer les exemples que mon prédécesseur a donné tantôt là, et aussi les versets qu'il a donné qui est très important, ou même dans la Bible, on dit de ne pas déplacer la borne. Quand nous parlons de la borne, nous avons toujours la métrologie qui intervient là-dessus. Mais vous allez voir, ces problèmes-là persistent, vous n'avez pas quitté. En tout cas, je profite pour cette thématique ici, afin que notre invité puisse quand même nous aider, surtout au service foncier où on parle de mesurage. Il y a des problèmes, madame. Il y a des problèmes très sérieux. Partout. Si je parle là, tout le monde me suit et tout le monde sait de quoi je parle. Vous allez voir une avenue de 15 mètres, par exemple. Il y a deux ans, vous avez mesuré, c'était bien 15 mètres, avec tous les repères possibles. Mais quelques mois plus tard,
se rétrécit. Les parcelles avancent.
Oui, oui, très rétrécis, très rétrécis. Il n'y a même pas de passage. Ben, vous allez constater que les limites sont presque respectées. Maintenant, on ne sait pas se situer. Les problèmes se posent à quel niveau et par, tu sais, c'est le conflit entre les voisins, démolition, ceci, cela. Donc, pour ce faire, je pense que l'invité peut nous aider. Par exemple, comme je voulais proposer une idée, quand il y a, par exemple, des lotissements, il y a quand même des bornes de repère. Des bornes de repère. Là où on dit, même si les années pouvaient passer, 10 ans, 20 ans, on se réfère à cette borne là-bas et on respecte les logistes. Quand il n'y a pas ces repères, par exemple, c'est un problème. On va toujours tomber dans les mêmes histoires. Même chose dans les balances ici, quand on paye les histoires au marché. C'est toujours le même problème. Vous allez arriver au point où on vous dira, non, les ressorts n'ont pas été bien fixés. Voilà pourquoi vous avez payé 100 kilos et arrivé à la maison, il y a une erreur qui n'est même pas absolue. Puisque dans les systèmes métriques, on parle de l'erreur absolue et l'erreur relative. Mais quand vous voyez un écart, par exemple, de 30 kilos, au lieu de 100, vous allez à 70. C'est une très mauvaise foi. On peut accepter l'erreur relative, par exemple, de 90 ou 95, bon, plus ou moins acceptable. C'est pas un écart qui est tellement considérable et nous en perdons complètement. Et aussi pour le système de régie des eaux ou de la SNEL. la plupart, nous ne connaissons pas comment ces histoires-là fonctionnent. Tout je pense qu'on doit quand même nous sensibiliser quand ça se fait. On ne connaît pas comment ça fonctionne. Vous voyez seulement la facture qui vient, oh, vous avez consommé autant. On ne sait pas quand est-ce qu'on consomme les trucs-là qu'ils ont toujours mis pour mesurer l'électricité ou même le courant d'eau. Personne n'en connaît. On voit seulement l'hygiène fixée et puis, à la fin, c'est la facture qui vient, on dirait, d'une manière forfaitaire. Donc, je pense que avec ce sujet ici, tous les responsables de ces services-là qui nous suivent doivent nous aider à nous sensibiliser pour nous éviter ce genre de problèmes là-bas. Alors, pourquoi vous allez voir, dans la plupart des cas, les gens ne respectent plus les instructions de l'État. Pourquoi? Parce qu'ils n'écrivent pas pour profit, voulais-je dire. Donc, vous allez voir tout. Tout concours à celui qui veut gagner, qui veut mater les autres. Donc c'était un peu ça, je pense que l'invité va beaucoup plus nous aider sur tous les plans, comme il a évoqué le système MKSA, partout là il y a toujours des problèmes. Les problèmes de l'élevage n'épargnent personne, partout il y a des problèmes.
Merci beaucoup Botoin Fataki, depuis le Haut-Katanga. Je rappelle... notre sujet d'aujourd'hui, avant la réaction de notre invité, métrologie, pourquoi la précision des mesures est essentielle dans notre vie quotidienne. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la métrologie aujourd'hui. Nous en parlons avec Monsieur Bertin Toumba. Il est président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC à Promène. Si vous voulez vous aussi participer à cette émission, poser votre question ou partager une expérience vécue, appelez-nous au 085 42 11 547 085 42 11 547. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Okapi Service. Monsieur Bertin Toumba, on va répondre à Jonathan Bantou et à Baudouin Fataki. Voilà, qui parle, qui demande comment on peut être assuré. Comment se rassurer de la métrologie, comment détecter la malhonnêteté, quelles sanctions. Et dans le lotissement, il se pose beaucoup de problèmes de mesurage.
Okay.
Et voilà, la consommation d'eau, d'électricité, comment être sûr que c'est vraiment ça, notre consommation, c'est ça que nous devons payer, est-ce que la facture est conforme? Voilà, comment on...
Bon, je crois que, d'abord, je dois saluer les pertinentes interventions de M. Jonathan et M. Baudouin. Et puis, bon, il y a plus d'enrichissement que de questions. Parce qu'elle dit, que voulez-vous que la population fasse? La population doit être sensibilisée. Que la connaissance de ce qu'on consomme ou ce qu'on achète, ça fait partie des droits de consommateurs. On dit que le client est roi. Un roi qui ne connaît pas son pouvoir, c'est pas un roi. Ils savent que le consommateur peut exiger ça. Que voulez-vous que la population fasse? La population doit d'abord commencer par comprendre l'importance de la mesure. Un savant anglais a dit, si vous pouvez mesurer ce dont vous parlez et l'exprimer par un nombre, alors vous connaissez quelque chose de votre sujet. Si vous ne le pouvez, votre connaissance est une bien pauvre espèce et incertaine. Ça veut dire que la mesure nous permet d'accéder à la connaissance. Quelqu'un a dit, mon peuple périt faute de
connaissance.
Vous ne pouvez pas accéder à la connaissance sans mesurer. Vous comprenez? Donc, il est important que la population comprenne l'importance de la métrologie et assume ça. Je vous ai dit qu'il y a trois branches de métrologie. Il y a la métrologie scientifique. Là, on fait des recherches sur des matériaux qui peuvent constituer des références crédibles. Il y a la métrologie industrielle utilisée dans les processus industriels pour s'assurer de la justesse des dosages. Quand on a dit 2 mg, tu mets 2,5 mg, au fini, ça donne autre chose. C'est un outil important de qualité dans l'industrie. Et la métrologie légale qui est dont le rôle est aussi protéger le consommateur dans les rapports quantité-prix. Et c'est pour cela qu'il y a une loi. C'est la loi qui doit protéger. Il faut que tout le monde comprenne. Législateur, tout le monde sache qu'il est consommateur. Si vous posez la bière, vous ne produisez pas la peinture. Vous voyez, vous posez la peinture, vous ne produisez pas le ciment. Donc tout le monde est consommateur quelque part et ça nous intéresse tous. Donc, cette loi sur la métrologie, qui fait même l'objet, il y a au niveau international, l'Organisation internationale de métrologie légale, qui a même produit une loi modèle que beaucoup de pays ont adaptée à leur contexte.
Mmh.
Donc, c'est urgent d'avoir ça.
Mmh.
Alors, que voulez-vous que la population fasse ? La population doit comprendre qu'elle est responsable, qu'elle est, fait partie des...
Mais comment détecter la malhonnêteté, comme disait Jonathan Bantou, j'achète un litre d'huile au marché, comment je sais que, oui c'est vrai, c'est un litre...
Ça fait partie de la métrologie légale, qui est régie par des textes.
Mais comment moi je me rassure en tant que ménagère?
Maintenant, il y a un problème. Dans notre pays, je vous ai dit que l'OCC fait le contrôle au niveau des stations-service. Quand vous allez voir l'étiquette là, alors, un effort est fait de ce côté-là, parce que les instruments de mesure qu'utilise l'OCC sont fiables, sont même régulièrement vérifiés au niveau international. Et c'est pour cela que par rapport à ce domaine-là, il y a une accréditation internationale, une reconnaissance. Alors, pour les balances, par exemple, et pour les autres instruments de mesure, il faut qu'il y ait la loi et les textes qui imposent ça. Donc, tous les pays modernes ont ça. Qu'est-ce que la population doit faire ? Qu'elle soutienne notre combat, qu'il y ait cette loi-là pour nous protéger.
Qu'elle soit aussi vigilante.
Je vais anticiper un peu sur ce que notre ami Baudouin a dit, la facturation forfaitaire. Ce n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, combien de gens reçoivent, payent réellement ce qu'ils ont consommé. Et même, vous voyez, ça rejoint le thème de l'année, les politiques. Comment le ministre prend des mesures ? Il doit connaître le niveau de consommation. Comment est-ce qu'on peut évaluer le niveau de consommation sans compteur ?
Une parcelle avec 3-4 ménages payer la même consommation d'eau qu'une parcelle qui n'a qu'un seul ménage de petite taille.
Vous voyez ça.
Ça existe, surtout à Kinshasa, et c'est injuste.
Voilà. Donc, quel que soit le secteur d'activité, le ministre ou l'autorité qui doit prendre des décisions doit baser ces décisions sur des statistiques fiables. On fait des statistiques fiables avec des mesures fiables. Donc c'est important. C'est pour cela que beaucoup de décisions ne sont pas appliquées parce que, d'abord, en amont, il n'y a pas de mesures fiables qui ont amené l'autorité à décider. C'est pour cela que la décision n'est pas appliquée. Parce que déjà, à la base, tout est basé sur des fausses mesures. Donc, une bonne décision est basée sur de bonnes mesures.
Et au-delà des pertes économiques que cela peut engendrer, des gens qui payent pour la consommation qui ne maîtrisent pas ou de gens qui achètent moins que ce qu'ils devaient avoir, au-delà des pertes économiques, de la fraude aussi, quels sont les autres risques auxquels les populations sont exposées ? Sur la santé, par exemple, quand vous parlez de dosage, et si un médicament est mal dosé ou un produit d'entretien de maison, quels sont les autres risques qu'on peut où on est exposé face à ce manque de sérieux, on va dire, dans ce domaine?
Les risques, madame, c'est quand vous êtes vous me permettez de revenir à une décision qui a été prise au niveau du gouvernement, ça fait exactement un an, quand le chef de l'État a constaté qu'on n'avait pas de normes sur l'environnement, sur le sol, sur l'eau et l'air. Et on avait engagé le gouvernement à rapidement avoir ces normes-là et établir les seuils d'acceptabilité. Alors, vous voyez que tout ça, il y a la norme, il y a la mesure. Le seuil, il faut le fixer et puis il faut le respecter. Quels sont les risques au niveau sanitaire ? L'air que nous respirons. Vous ne savez pas si c'est pollué. Tous les pneus qui sont brûlés dans le coin de rue. L'air, on doit mesurer, prendre la qualité de l'air. Deuxième, on a parlé des médicaments qui sont produits ici. Est-ce que les dosages sont respectés? Un médicament, 3, 4, 5, 6 intrants, chaque intrant doit être utilisé à une dose bien déterminée. Est-ce que les dosages sont respectés? Deux, les instruments de mesure qui sont utilisés, quand vous arrivez, vous devez monter sur la balance, on doit faire le rapport entre la taille et le poids et tout ça. Est-ce que ces mesures sont fiables?
Parce que quand je monte sur une balance au marché, j'ai un poids donné et quand je vais à l'hôpital, c'est pas forcément le même poids.
Tout ça, c'est un problème. Alors, c'est ça le risque qu'il y a. Si l'État, qui est responsable de la sécurité des Congolais, ne peut agir que par la loi, par les instructions et par la sanction, comme quelqu'un a posé tout à l'heure, quelles sont les sanctions? Dans la proposition de loi qui a été votée au Sénat, parce que nous avons participé, et tout ça c'est prévu. C'est prévu.
Mais est-ce que finalement cette absence de système moderne de texte et tout ça peut freiner aussi les exportations congolaises?
Ça ne peut que freiner les exportations. Parce que quand vous produisez, vous ciblez les marchés. Et vous devez répondre aux exigences du marché.
On parle au WADA. Et est-ce qu'on peut facilement échanger avec les autres tant que nous-mêmes ne maîtrisons pas nos mesures, nos dosages?
Il y a des pays qui ont fait de la métronisation des outils stratégiques de développement. Je vais en citer deux, la Corée et la Chine. La normation et la métronisation sont reprises dans la constitution du pays. En Chine, chaque année, on contrôle, on vérifie 34 millions de soins de mesure. En moyenne, aux États-Unis, chaque jour, il y a autour de 100 000 vérifications métrologiques. Donc, dans l'industrie, dans le commerce, ça veut dire que c'est un élément important, même pour le développement d'un pays.
C'est stratégique, donc.
C'est stratégique pour le développement d'un pays. Donc, que ce soit à l'importation pour évaluer ce qui entre, à l'exportation pour évaluer et être rassuré que nous respectons les exigences des pays destinataires. On doit mesurer.
Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est en plein essor. On a beaucoup d'initiatives dans le secteur agroalimentaire, des matériaux de construction et tout. Mais après 20 ans de lutte, vous militez depuis 20 ans déjà pour le respect des normes et des mesures, est-ce que vous trouvez, selon vos enquêtes, que les entreprises congolaises commencent aussi à intégrer cette culture de la qualité, de la normalisation? Aujourd'hui, on sait que, par exemple, dans la médecine traditionnelle, il y a des gens qui se méfient parce que il n'y a pas de dosage, il n'y a rien. On te dit, bon, on prend du jus de gingembre, on prend le clou de girofle sans dosage. Et est-ce que cette culture commence quand même à être intégré dans le secteur des entreprises congolaises?
Les entreprises qui travaillent avec des partenaires extérieurs n'ont pas de choix. Comme dans le secteur minier, l'hydrocarbure, on n'a pas de choix. C'est pour cela que quand, généralement, vous parlez normalisation métrologique, l'OCC, qui est un outil du ministère du commerce extérieur, n'a pas de choix. Parce qu'il doit faire le contrôle de tout ça. Donc, mais par rapport aux enjeux économiques, aux enjeux de développement du pays, la pratique est très faible et même éparse. On ne sait pas exactement qui fait quoi. Madame, je vous informe par exemple qu'il y a eu des experts de l'OMC qui étaient ici pour l'examen de politique commerciale. Mais la normalisation avait une place importante. On a eu à débattre. Mais il y a des aspects sur lesquels tout le monde est resté sur sa soif. Parce qu'on ne peut pas comprendre quand on échange, vous dire, les efforts ont été fournis, mais que ça fait 14 ans qu'on attend la loi. Et quand vous voyez l'importance du secteur et qu'on vous dise qu'on attend la loi depuis 14 ans, il y a un problème. Il y a un problème.
On va prendre un auditeur au bout de fil, Eric Mutombo. Mutombo nous appelle depuis Mbujimayi. Bonjour Eric.
Bonjour,
veuillez éteindre votre poste récepteur pour nous permettre de bien échanger avec vous. Et suivez-nous à partir de votre téléphone. Allez-y, vos questions ou votre contribution à cette émission. On vous écoute, monsieur Eric Mutombo. Malheureusement, je crois qu'on a un problème de liaison avec Eric Mutombo qui nous appelle depuis Mbujimayi. Allô? On va tenter de le rappeler. Notre sujet d'aujourd'hui, métrologie, pourquoi la précision des mesures est essentielle dans notre vie quotidienne. Nous sommes avec M. Bertin Toumba-Bouloulou, président de l'Association pour la promotion de la métrologie et la normalisation en RDC à Promène, 085 42 11 547, notre numéro de téléphone et notre page Facebook où vous pouvez également nous laisser un commentaire, c'est Okapi Service. Monsieur Bertin, vous dites que c'est depuis 14 ans qu'on attend la loi sur la métrologie. Bon, il y a des faiblesses au niveau du contrôle, il y a autant de problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire en priorité pour améliorer la situation?
Qu'est-ce qu'il faut faire en l'absence de la loi? La première réponse, c'est qu'on doit intensifier le plaidoyer, parce qu'on n'a pas de choix. Le monde évolue, nous n'allons pas, c'est pas nous qui allons tirer le monde vers le bas. Les gens évoluent, nous ne voulons pas évoluer. Ils ne vont pas nous attendre, les gens évoluent. Et madame, vous savez que dans les échanges internationaux, on ne se fait pas des cadeaux. Le contexte du commerce international, c'est un contexte de compétition. Vous avez le café, nous ne sommes pas les seuls à avoir le café. Le Brésil a le café, l'Éthiopie a le café, le Zambie a le café. Mais c'est celui qui présente le mieux qui gagne des marchés. Donc on ne se fait pas des cadeaux. Et même, je voudrais souligner une chose. Vous savez, quand les experts étaient là, de l'OMC, un expert a fait une intervention qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit qu'on ne peut pas aveuglément demander aux gens d'appliquer la norme internationale dans un pays. Il avait totalement raison, parce que la norme est établie par consensus. Alors quand il y a consensus, c'est le consensus des gens qui ont participé. Vous n'avez pas participé, on ne tient pas compte de vous. Là où se prennent les décisions là, j'ai dit que au niveau international, nous ne sommes pas là, bilan international prend les mesures. Et quand vous regardez l'Afrique, il n'y a que l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, le Maroc et la Tunisie qui participent au débat de haut niveau des scientifiques par rapport aux références internationales et les autres. Nous ne sommes pas là. Mais là où on établit les normes, vous n'êtes pas là. Vous considérez que dans certaines choses, le Congo est tellement important que s'il ne participe pas, on ne tient pas compte de lui.
Mais vous dites qu'il faut intensifier les plaidoyers. Qui, par qui? Qui doit le faire?
Aujourd'hui, je vous ai dit que le dossier est bloqué au niveau du Parlement. Alors, nous avons mené nos investigations. Nous avons, par exemple, appris qu'au niveau de l'Assemblée nationale, on avait estimé qu'il fallait deux au lieu d'une. Donc, une loi sur la métrologie, une autre sur la normalisation. Nous avons fait un effort pour nous procurer ça, malheureusement. L'impression, il y a trois pages qui manquent. C'est pour cela que, bon, quand vous avez un document où il y a manque de trois pages, je le garde. Mais alors, donc, il faut absolument ça. Les textes qui régissent la matière. C'est important. Il faut continuer le plaidoyer, surtout au Parlement. Nous avons prévu encore des contacts avec les autorités. Madame, ça fait 20 ans qu'on est là-dedans. Je sais que c'est un domaine tellement important, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités de création d'emplois. Je vous ai dit, par exemple, en métrologie légale, il y a quatre opérations principales. Il y a l'approbation du modèle, il y a la vérification primitive, la vérification périodique et la surveillance. Et ça fait 20 ans, je n'ai jamais appris que quelque part, on a fait l'approbation du modèle. Donc, il y a des manques à gagner parce qu'il y a des opérations qui ne sont pas effectuées à cause de l'absence de la loi. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous échappent comme ça parce que, justement, cette loi, le secteur n'est pas suffisamment réglementé.
Alors, on va tenter d'avoir à nouveau Eric Mutombo qui nous appelle de Mbujimayi. Monsieur Eric, vous êtes là? Bonjour. Un problème de connexion. Alors, dans ces plaidoyers, vous êtes là depuis 20 ans. Oui. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées, vous, enfin, en tant que président de la Promène? Qu'est-ce que la Promène fait concrètement dans cette lutte?
Merci beaucoup, madame. Après autant d'années, nous avons décidé de changer de stratégie. Nous avons créé une branche qu'on appelle DIFNOR, Dynamique Femmes et Normalisation. Nous avons estimé qu'il fallait absolument encadrer, capaciter les femmes congolaises qui sont déjà dynamiques, mais il faut qu'ils ajoutent à ceux qui font la dimension normalisation. Non seulement avoir les normes, mais être en mesure aussi de participer à l'élaboration des normes. Alors faire valoir leurs particularités, et ça vous permet d'accéder à la connaissance. La deuxième branche, c'est la branche DIGNOR. Nous voulons encadrer les jeunes, le former. Nous avons un module que nous appelons les fondamentaux de la météorologie. Mmh. Jusqu'aujourd'hui, encore plus tard qu'hier, quelqu'un m'a appelé pour me dire, monsieur, est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? C'est météorologie ou métrologie. Mmh. Donc il y a déjà un problème à ce niveau-là. Mmh. Et puis, quand vous dites norme, madame, ça c'est un aspect important. Mmh. J'ai appris, par exemple, que les juristes, quand vous faites les cours de droit, il y a un cours sur la hiérarchie des normes. Mmh. Il y a les traités, la constitution, les décrets, les arrêtés. Mmh. Ça se limite là. Les normes techniques qui sont établies au niveau de la PAIS par les organismes nationaux de normalisation, mmh. ce n'est pas pris en compte. Parce que ce sont des normes volontaires. Voilà, la stratégie, c'est mobiliser les femmes, mobiliser les jeunes, mmh. en leur disant, le monde évolue et très vite. Vous devez évoluer au rythme du monde. Mmh. Là, on parle normes, vous devez être là. Nous avons, il y a quelques mois, réuni quelques organisations professionnelles, les ordres de pharmaciens, certains ont répondu à notre invitation, les autres n'ont pas répondu. Beaucoup étaient étonnés d'apprendre que partout où on élabore les normes de leur secteur, ils ont le droit de participer. Mmh. Ils ne savaient pas. Vous savez. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, mon peuple périt faute de connaissances. Mmh. Ailleurs, je vous donne l'exemple de la Chine, où j'ai fait mes études. Mmh. Il y a une liste des domaines, des secteurs, des produits pour lesquels partout où on parle normalisation, ils ne peuvent pas être absents. Mmh. Ça devait être le cas pour nous. Partout on parle environnement, partout on parle mine, partout on parle agroalimentaire, nous devrions aligner nos meilleurs experts pour défendre la position de la RDC, pour faire valoir les particularités de la RDC. Déjà, un pays aussi grand, quand vous envoyez quelqu'un parler de l'environnement dans notre pays, ça doit être quelqu'un qui maîtrise l'environnement du Bas-Congo, qui est différent de celui du Katanga, qui est différent de celui de Kisangani, du Kasaï. Donc, ça doit nous donner encore plus de responsabilité quand nous parlons au nom de la RDC. Est-ce que nous avons les mesures exactes? Est-ce que nous maîtrisons les particularités congolaises qui peuvent être intégrées dans les normes régionales ou internationales?
On va prendre Robert Adioku. S'il peut déjà prendre la précaution d'éteindre son poste au récepteur. Robert Adioku, vous êtes en ligne, vous nous appelez depuis Bounia, en Ituri. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste. Hommage à vous, à votre radio, à notre radio et à l'invité. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de savants dans notre pays. Un monsieur comme ça devrait être conseiller à la présidence ou à la primature ou au ministère. Vraiment, félicitations. Un sujet très important. Merci. Je venais d'apprendre beaucoup de choses. Mm-hmm. Si tous les Congolais pouvaient suivre la radio Capi, vraiment, on allait évoluer très vite. Merci beaucoup parce que vous êtes en train de jouer correctement votre rôle de quatrième pouvoir.
Merci.
Tenez, l'invité parle abondamment de l'éducation, c'est une réalité. Nous, les Congolais, nous sommes trop distraits, je ne sais pas pourquoi. Je vous ai dit plusieurs fois que j'ai fait 6 ans et demi à Kinshasa, comme député national, comme chargé de mission de l'honorable rapporteur. J'ai sillonné beaucoup de ministères, les secrétariats généraux. Je ne comprends rien. Pourquoi on doit tarder à prendre l'acte pour réglementer cet aspect de problème? À guise de témoignage, j'ai été volé au niveau de la station de carburant par 2 fois. Pour la 2e fois, quand j'ai constaté, je me suis fâché. Il y a une dame qui me connaissait, elle m'a approché, elle dit papa bourgmestre, kosomba lisusu carburant wate awa ba ibaka bato. Vous voyez des choses comme ça. Même les partout et peu partout au marché, partout les gens règlent les balances à telle enseigne que on vole les gens à tout moment. C'est une occasion aussi pour dire au peuple congolais que l'éducation constitue le fondement de pouvoir à démocratie. La démocratie qui est du reste une vie. Pour que le bon Dieu puisse nous bénir, nous devons faire preuve de bonne moralité, de bonnes valeurs spirituelles et de bonnes valeurs intellectuelles. C'est d'ailleurs la mission de l'État. Assurer l'ordre public, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. procurer ou donner aux citoyens des biens et des services indispensables, nécessaires à leur confort matériel et à leur épanouissement moral, spirituel, psychologique et intellectuel. Vraiment, nous les Congolais, nous sommes distraits, comme j'ai toujours dit aussi, avec une gestion saine et rationnelle. Dans moins de 5 ans, nous devenons une grande puissance dans ce monde. Mais nous sommes distraits de beaucoup d'immoraux, des gens qui ne craignent pas Dieu. On ne fait pas correctement les travaux. Surtout l'élite intellectuelle devrait être modèle et exemplaire, parce que je ne vous apprends rien en disant que le rôle d'une élite intellectuelle, c'est d'influencer positivement les présents et les futurs. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons, nous, l'élite intellectuelle? Vraiment, monsieur l'invité, hommage, soyez béni. Hommage aussi au chef de l'État, parce qu'il a une vision claire de développement et de la création de la classe moyenne. Mais il faut qu'il se pose la question, est-ce qu'il est vraiment bien entouré, à commencer au plus haut niveau jusqu'au niveau les plus bas, parce que l'entourage du chef fait son image. Quand merci vous êtes beaucoup. Mal entouré, en tout cas vous êtes malheureux. Merci. Vraiment merci beaucoup Radio Okapi, des sujets très très importants, merci. Très intéressants. Je voulais corriger une chose, il y a quelques jours par rapport à la gestion, à la décentralisation, j'ai déclaré que les avenues devraient être des entités décentralisées. Je voulais plutôt dire que les chefs d'avenue doivent être payés et rémunérés parce qu'ils rendent d'énormes services.
On est dans la métrologie aujourd'hui, monsieur Robert Adioku. Merci en tout cas pour votre intervention. Merci pour vos encouragements aussi. Monsieur Bertin Toumba, félicitations à monsieur de la part.
Félicitations à vous, Radio Okapi.
De la part de M. Robert Adioku. Ouais. Voilà, on va peut-être chuter par là. La certification, on en parle de plus en plus. Oui. C'est quoi l'importance de la certification dans la métrologie? Est-ce qu'il d'abord il y a un lien entre les deux?
La certification vient du verbe certifié. Mmh. Certifié, c'est attester qu'un produit ou un service est conforme à des exigences.
À des normes bien données. Voilà. Bien
donc, il y a tout un processus. Il y a même des normes sur ça qui doivent être connues et maîtrisées. C'est important. La certification, c'est attestation. Il y a des auditeurs qui arrivent, qui vous évaluent au regard de tout ce qui est exigé par les normes pertinentes. Et puis, on vous certifie.
Mais en amont, il faut qu'il y ait des normes.
En amont, il y a des normes, il y a des mesures.
Oui.
En amont.
Oui. Et les normes, parlons-en, dans le secteur alimentaire, pour ne citer que ce secteur-là, aujourd'hui, on a des boulangeries, depuis tout le temps d'ailleurs, depuis longtemps, on a des boulangeries qui fabriquent de manière artisanale le pain, on a des restaurants, est-ce qu'il y a des normes dans ces secteurs-là? Est-ce que c'est que la population consomme et contrôle, est-ce que les dosages sont respectés, est-ce que l'environnement est respecté? Que dire de ces secteurs-là?
Vous posez encore une question très 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 pertinente, madame. Vous savez qu'il y a quelques années, il y a eu un problème sérieux dans la vente de pain à Kinshasa. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez que la plupart des mamans que vous voyez transporter les bassins de pain et tout ça, elles ont des contrats avec certaines entreprises qui donnent le pain à leurs agents. Et puis, elles sont payées à la fin du mois. Du jour au lendemain, un opérateur économique a augmenté le prix. Ça a créé des problèmes. Il y a eu même quelqu'un qui est mort là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? L'entreprise a baissé le volume.
On garde le même prix?
Mais
c'est le poids qui, le grammage qui diminue. C'est une fraude.
Ça veut dire qu'en amont.
Ou une augmentation de prix de manière tacite.
On parle de fraude quand on est tous informés de ce que doit être le produit, des différentes mesures qui font que, ailleurs, quand quelqu'un connaît les normes, il peut déjà faire l'essai à la maison. J'achète un pain, j'ai une balance, je peux essayer si on a triché ou pas. Donc, ça, c'est une question importante. Quand on a parlé de pain, nous, à l'époque, nous avions pris l'initiative d'écrire au ministre, à l'époque, pour lui dire que la meilleure façon de résoudre durablement ce problème-là, c'est avoir des normes sur le pain. Définir le type de pain.
On y reviendra peut-être une prochaine fois. On est vraiment arrivé à la fin de notre émission. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. La métrologie peut sembler discrète, mais elle influence profondément notre quotidien, notre sécurité, notre santé et même notre économie. Merci à vous également, chers auditeurs, de nous avoir suivis. On se retrouve après le bulletin d'information.